Des informations un peu que je voudrais vous donner sur pendant les JO, enfin avant les JO, on va organiser aussi sur Paris dans les trois grandes universités, donc le Centre Sèvres, l'Institut catholique et les Bernardins, trois soirées colloques avec des invités sportifs et théologiens et des témoins. Alors il y aura sur les Bernardins le 25 janvier, enfin je pourrais vous donner les dates par écrit, hein. Il y aura quelque chose sur sport et spiritualité. Quelle interaction dans le monde d'aujourd'hui entre ces quelle interaction entre ces deux réalités, le sport et la spiritualité aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi évidemment une réduction du spirituel au non religieux. Qui ne nous donne pas facilement accès forcément à la profondeur de ce qu'est une spiritualité du sport. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si Isabelle vous en a parlé, mais j'ai rendez-vous là dans 15 jours avec Fabien Canu, directeur de l'INSEP, pour pouvoir ouvrir une aumônerie catholique ou chrétienne dans l'INSEP à cause des mineurs qui sont en internat et qui nous autorisent juridiquement à pouvoir le faire, et à cause surtout des hauts qui sont catéchumènes et qui peuvent pas exprimer, enfin qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de lieu dans l'INSEP pour pouvoir exprimer éventuellement leur foi, leur spiritualité, leur prière. Alors Fabien Canu est un ancien judoka que moi je ne connais pas, mais bon, il est voilà, on va avoir une rencontre et j'espère que on va pouvoir aboutir à quelque chose de l'ordre d'un lieu qui permettent à tout sportif ou toute personne qui exerce un métier à l'intérieur de l'INSEP de pouvoir avoir accès au seul territoire qui leur est interdit aujourd'hui dans l'INSEP et qui est le territoire du spirituel. Ils peuvent tout, ils peuvent se laver les dents, ils peuvent aller chez le dentiste, ils peuvent aller acheter un pain, ils ont accès à toute l'électronique et à l'informatique du sport et de ce que vous parliez, on parlait tout à l'heure. Mais ils peuvent pas prier. Donc là, il y a un manque parce qu'en fait, enfin, je prêche des convertis, mais corps, esprit, âme, un corps qui ne laisse pas son âme s'exprimer est un corps qui est handicapé. Il manque quelque chose. Un corps qui ne pense qu'en termes de corps et pas en termes d'esprit, il peut devenir un robot, il peut devenir une bête parce qu'il pense que à la performativité de ce qu'il peut faire. Donc c'est pas pour rien que Dieu nous a fait en 3D, quoi. Et donc il n'y a pas de raison, au corps, esprit, âme. Il n'y a pas de raison qu'au nom de la laïcité à la française, on n'ait pas le droit de pouvoir rendre gloire à son corps en rendant gloire à Dieu ou rendre gloire à Dieu en rendant gloire à son corps. Le deuxième colloque sera sur sport et handicap. Ce sera au Centre Sèvres le 29 février. Erwan Chotti qui le prend en charge, hein, c'est un jésuite. Pensez théologiquement l'effort quand on a un corps puissant et quand on a un corps faible, fragile. Et qu'est-ce que ce rapport au corps nous dit du corps du Christ dans la force et la faiblesse? Alors que je suis faible, que je suis fort. Voilà, les grands sont les petits, etc. Donc voilà, ça sera avec un témoin, je pense, peut-être c'est Marie Armel ou Marie Amélie?
Marie-Amélie.
Amélie. Chaque fois, il y aura. Donc pour le premier, c'est Jason Nyoka qui vient. Enfin, Isabelle a dû vous en parler.
Ouais.
C'est un jeune du judo, 8 ans, pratique, qui est devenu chrétien, enfin, par le sport. Et qui va être ordonné prêtre en juin. Et à l'ICP, avec Anne-Sophie Vivier-Muserand, c'est sport et communion, avec les ambiguïtés du mot communion, qui peuvent être une simple horizontalité émotionnelle, ou qui peuvent être une espèce de manipulation aussi du mental d'une foule, jusqu'à des violences et des dépradations. Comment faire corps, parce que c'est ça la communion, comment faire corps sans s'opposer à l'autre? C'est aussi ça la question qui est derrière. Puis, communion, liberté et intégrité. Voilà, ces trois colloques, on voudrait en publier peut-être, si ça... Donc, à chaque fois, il y a un théologien ou une théologienne, un sportif, homme ou femme, ou deux théologiens sportifs ou qui aiment le sport, homme et femme, et puis une personne, un témoin qui vient donner un témoin sportif. Voilà, peut-être que ça donnera, on va peut-être publier les actes après, mais on voudrait participer, évidemment, vous sentez bien, l'objectif qui est derrière, c'est de participer à une théologie positive du corps, pour que l'Église puisse s'exprimer sur le corps à partir d'autre chose que du sexe ou des abus, ou des deux. Et donc, qu'on ait en main un matériau, enfin, je pense que vous l'avez, vous aussi, vous savez le développer, hein, dans l'Église des Sports, mais que on puisse développer un matériau positif sur ce corps beau et sur ce corps don. Il y a un jeu de mots là, il y a deux jeux de mots, hein. Le corps beau et le corps don. Le corps don, il nous relie aux autres, il nous relie à Dieu comme un cordon ombilical. Et le corps beau parce qu'il est magnifique, mais qu'il a aussi des fragilités et qu'il faut les intégrer. C'est un peu comme une messe, on ne peut pas y aller si on n'y va pas humblement. À la troisième date, c'est le 4 avril. En tout cas, au mois de mars, il y a Pâques. Mais je vous ferai parvenir à tous ça.
Les trois dates sont sur le calendrier d'Église des Sports dans les manifestations.
Et ça sera diffusé sur RCF et animé par un journaliste d'RCF. Voilà, la deuxième chose que je voulais dire, et puis vous m'arrêtez si Isabelle vous l'a déjà dit hier. Donc on a un programme Holy Games avec ce qu'on appelle des routes Holy Games sur 9 jours ou 8 jours sur chacune des 2 semaines des JO. Et on a un programme de 12 jours sur le Paralympique. Et on n'a pas fait les projets de la même manière. Il y a actuellement 28 ou 26 délégués Holy Games dans les diocèses pour pouvoir faire venir à Paris avec 300 euros la semaine. Seulement comme frais, des groupes de 20 à 30 jeunes dans chaque diocèse que nous logeons, soit dans des internats, soit dans des gymnases, soit dans des familles, par groupe de 30 dans une trentaine de paroisses qu'on appelle les paroisses olympiques. Tout ça, vous le savez, non? Je
non,
vous l'ai déjà dit? Vous
savez? Précisé, non, pour faire.
Ah bon, d'accord. Donc,
Assez vite.
on a demandé à des paroisses de Paris, des Yvelines et de Boulogne, et Nanterre et de Seine-Saint-Denis évidemment, qui sont à moins d'un quart d'heure à pied d'un site olympique, si elles acceptaient pendant l'été prochain d'ouvrir leur paroisse, d'ouvrir leur église, de laisser leur église ouverte avec une logotisation, non pas des JO parce qu'on n'a pas le droit, mais de Holy Games parce qu'on a le droit, de façon à donner envie à des personnes de rentrer dans une église où elles seraient attendues. Elles seraient attendues d'abord par un stand à l'extérieur sur le parvis avec une roulotte qui s'appelle Donne-moi à boire, et on ne donnerait que de l'eau fraîche à tout le monde. Et ça nous permet d'expliquer un peu aussi ce qu'on fait. Sur cette roulotte, il y aurait aussi, enfin, toute roulotte confondue et toute église confondue, 150 000 évangiles en français et en anglais, enfin, soit en français, soit en anglais, avec toutes les 15 pages, un témoignage sportif qu'on est en train de faire avec les protestants. Et il serait donné cet évangile. Et puis, à l'intérieur de ces églises olympiques, de ces paroisses olympiques, il y aurait soit une proposition relayée par des associations comme Art, Culture et Foi ou comme CASA, pour visiter, faire une catéchèse de ce que c'est qu'une église et ce qui se fait dans cette paroisse, et non pas simplement sur la beauté de cette statue du 18e siècle, mais sur l'Eucharistie, tout ça. Donc on prévoit ça en 8 langues actuellement, et ça sera enregistré sur un QR code pour pas que y ait 8 langues qui attendent le client. Donc ça, c'est un projet culturel. Il y a un projet ensuite cultuel, c'est qu'il y ait 17 églises pour l'instant, avec des prêtres qui appartiennent à des langues différentes, qui puissent 4 heures par jour faire un accueil, une messe et éventuellement une animation ou des confessions dans une langue vernaculaire qui serait connue sur notre site holygames.fr. C'est-à-dire tous les arabophones pourront avoir une messe à 10 heures, un accueil à 11 h, un repas s'ils veulent, etc. Et donc, on est en train d'organiser à l'extérieur donc de village olympique, du village olympique, des lieux d'accueil en langue vernaculaire pas pour les athlètes, hein, évidemment, mais plutôt pour les familles et les spectateurs. Donc ça, c'est du cultuel. Dans l'évangélisation, il y aura aussi une proposition sur. Donc, il y aura 13 concerts qu'on est en train de mettre sur pied. On en a à peu près trouvé le financement, qui auront lieu majoritairement à la Madeleine, puisque la Madeleine sera le QG un peu des cathos sur Paris, et ça l'est déjà par la petite chapelle que j'ai bénie. Dans cette chapelle, donc il y aura 13 concerts. Il y aura des concerts grand public, genre, je sais pas, musique classique. Hein. Il y aura des concerts œcuméniques. Il y aura des concerts de louanges. Il y aura des concerts d'évangélisation. Voilà. Et puis il y aura aussi des concerts qui seront un peu en forme de. Enfin, tout ça est mélangé, hein, des témoignages. Alors, Natacha Saint-Pierre qui va venir. On a refusé Glorious parce qu'ils sont trop chers. Mais d'autres, il n'y a pas que Glorious, mais j'adore Glorious. Hein, c'est heureux qu'il y ait nos frappes. Mais là, ils nous ont demandé des prix un peu trop. Voilà, donc. Et puis, on a ce qu'on appelle des concerts entrecôtes ou bistecs, qui sont des concerts qui rapportent de l'argent, parce qu'on fait venir 4 violonistes, on fait les 4 saisons de Vivaldi et ça nous rapporte 5 000 euros. Tout le monde a envie d'entendre les concerts de Vivaldi à la Madeleine. Donc, c'est fait par nous et c'est tout bénéfice, ça nous permet de payer les autres concerts quand Natacha Saint-Pierre demande un peu d'argent.
Sur les concerts, parce que j'avais discuté avec le responsable de Bayard, c'était entre Bayard et...
Ouais, alors on a pris Rejoice.
Rejoice.
Parce que Rejoice, vous voyez, c'est la famille Lefebvre. Lui, le papa, il est responsable, le père, il est responsable d'une boîte d'événementiel. Et c'est avec lui, d'ailleurs, qu'on fait toutes les retransmissions publiques de matchs de rugby actuellement dans des paroisses. Et il est moins cher qu'un autre, et il met du bon matériel. Donc Rejoice va prendre ça en main, et ça ne sera pas Bayard, finalement. Ça, on les avait mis en concurrence. Parce que Rejoice, ils ont un esprit, ils ont compris ce qu'on voulait faire. Bayard, ils ont des moyens. Enfin, je m'excuse de dire ça à Bayard, que j'aime beaucoup. Ils ont plus de moyens que de... Voilà. Il y aura donc des missions d'évangélisation aussi. Donc actuellement, on a au moins 6 communautés qui nous ont proposé, enfin, à qui on a proposé ou qui se sont proposées pour, autour de la Madeleine ou de Saint-Sulpice ou de la Basilique Saint-Denis, installer un village qui à certains moments sera ouvert pour accueillir les personnes sur le thème de l'évangélisation. On a les Salésiens, la communauté Saint-Martin, c'est vous dire si on est open, 4 missions, Annuncio, Chemin Neuf et Ancaren. Donc ils vont prendre soit une paroisse, soit la Madeleine ou Saint-Sulpice ou Saint-Denis, pour proposer dans des installations précaires, mais des petites tentes à l'intérieur de nos grilles, des temps d'évangélisation, avec un point fort sur la Madeleine, parce que la Madeleine, tout le monde vient la visiter après la Tour Eiffel. Donc ça, ce seront des moments. Voilà. Il y a le marathon des églises, qui consiste donc à proposer des parcours pour visiter 5 églises en une après-midi, sans courir, hein, mais avec chaque fois un groupe de jeunes qui accueille les touristes. Il y aura une exposition permanente du Saint-Suaire, mais pas avec le vrai, hein, avec une copie, avec un fac-similé dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et il y aura sept moments où sera exposée la couronne d'épines. Pourquoi? Parce que les sportifs courent après une couronne de laurier qui se fane, tandis que nous courons pour une couronne qui ne se fane pas. Et donc, il y aura 2 moments ou 3 moments pour les sportifs eux-mêmes, qui sera réservé, ostension donc de vénération de la couronne, 2 moments où seront réservés aux jeunes qui viennent nous aider, et 3 ou 4 moments qui seront réservés au grand public, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Là aussi, c'est un peu pour l'évangélisation. Pour ces jeunes qui viennent, première semaine ou deuxième semaine des JO, il y aura un programme de Rise Up, puisque maintenant c'est le terme pour va dire catéchèse. Donc il y aura tous les matins, ou un matin sur deux, on n'a pas encore bien décidé, une catéchèse qui sera faite sur le sport ou sur d'autres choses. Je ne sais pas, on n'a pas encore. Je contacte demain après-midi un prêtre pour organiser tout ça. D'ailleurs, si vous avez des compétences et des... ou plutôt de la liberté et des idées, elles sont tout à fait bienvenues. Voilà, pour faire réfléchir un peu les jeunes à théologie du corps, théologie du sport, théologie de l'effort, théologie du réconfort, tout ça c'est de l'or. Donc un petit rise-up, c'est-à-dire témoignage, chant, et ça sera au Bernardin, dans l'amphithéâtre des Bernardins, deux fois le même programme sur chaque semaine, des temps de partage, la messe proposée, et l'après-midi, les services. Donc les services, c'est culturel, évangélisation, service des pauvres, service des personnes en précarité, et sport. On a réservé quelques gymnases dans Paris et dans des écoles catholiques. Et puis il y aura un festival du film sportif aussi au Bernardin. Et c'est pour ça que j'ai pris note sur Comme des Phénix là. Je vais aller voir ce que c'est, si on peut le mettre au programme. Et on a sélectionné 12 films comme Chariot de Feu ou autre pour proposer ça de manière ouverte.
J'ai toute une liste, j'ai tout plein de DVD si vous voulez regarder.
Ah ouais, mais vous les avez donné à la liste à Isabelle.
Sur le site Église et Sport, ils y sont dans la bibliographie.
Ah ben on a dû vous les piquer alors.
Comment?
On a dû vous les piquer.
Oui, il y en a certains qui m'ont piqué. Ouais.
Voilà, ça c'est pour le temps du JO. Et pour le temps des JOP, on a prévu donc un autre programme adapté au monde paralympique et au monde plutôt du handicap. Donc l'idée c'est un jour, un sport, un stade, une église. Un jour, un sport, un stade, une église. Donc on voudrait s'adresser à 200 personnes, 100 personnes porteuses d'un handicap quel qu'il soit et 100 accompagnateurs pour chaque jour des jours paralympiques, leur proposer donc d'aller dans un stade. Donc on a réuni actuellement on aura quelques places qui nous ont été offertes ou qu'on a achetées quand il fallait les acheter, d'ailleurs autant pour les Olympiques que pour les Paralympiques, de façon à ce que des personnes qui le désirent puissent aller passer une journée en partie dans le stade, en partie dans l'église la plus proche de ce stade, avec un déjeuner et une proposition spirituelle, avec possibilité aussi d'avoir des Marie-Amélie Le Fur ou autres qui donnent des témoignages à ce moment-là. Voilà, par exemple, avant-hier, j'étais aux Invalides avec les généraux qui organisent la sécurité, parce qu'il y aura 20 000 soldats disponibles pendant les JO, en plus des gendarmes, en plus de la police, en plus du REM, en plus du GIGN, ça va être dingue. Hein. Et ce qui leur fait peur vraiment, c'est la cérémonie d'ouverture. Hein. 600 000 personnes attendues, 3,5 km sur la Seine à surveiller et à sécurisé. Et pendant les 7 jours qui précèdent les Jeux Olympiques, interdiction d'accès sur 30 mètres au nord et 30 mètres au sud de la Seine pour tout sécuriser. Ça pose question, enfin c'est super, mais il y a une espèce d'inflation pour faire la meilleure célébration d'ouverture des JO chaque année qui nous dépense d'énergie. Et aujourd'hui, ils ont deux angoisses qui sont les nôtres, c'est la tension internationale et les punaises de lit. Ouais.
Qui sera plus facile à gérer si on parle à la fin que des punaises.
Il peut y avoir un combat entre les punaises et les rats. Hein.
Oui.
Pour revenir aux Invalides, il y aura le tir à l'arc paralympique devant les Invalides et le pont Alexandre III, là, l'esplanade. Et donc, on a prévu actuellement de pouvoir accueillir 200 personnes handicapées dans les Invalides. Il y a un lieu de restauration, il y aura la messe à Saint-Louis et ils vont au stade l'après-midi. Et on va faire ça aussi chez toi. Tu peux dire un peu comment ça va. C'est quel sport et tu auras du handisport, non?
C'est bon. Accueillir, c'est ce qu'il y a, aviron, kayak, et puis canoë.
C'est ça. Donc il y aura une journée à Vers-sur-Marne aussi, accueillie dans ta voie.
Isabelle leur dit, voilà. On a intérêt d'accueillir. Voilà. On sera dans la joie. Et ça crée peut-être un lieu très proche justement de la base.
La base nautique.
La base nautique. Parce qu'il y a toujours la difficulté d'aller au centre-ville à 2 km de l'église. Comment être très proche de l'accueil aussi. L'accueillir, c'est ça.
Ouais. Donc il y aura la même chose dans une église à Boulogne, près de Roland-Garros. Et donc ça fait partie de... Voilà. Et donc là, chaque journée, c'est 9h, enfin c'est 8-9h, 19h, 20h. Après, la personne handicapée rentre chez elle ou à une structure, on ne peut pas les accueillir dans nos parcs. En amont aussi du JO, j'y pense, parce qu'on aura un match de foot le 17 ou 13 mars, je ne sais plus, contre le Variété Club à Versailles. Et donc, on aura Zinedine Zidane, Nelson Montfort. Et donc, c'est un match de foot contre le Variété Club qui sera séminariste et prêtre d'Île-de-France. Enfin, d'Île-de-France, parce que c'est plus simple pour eux de venir sur une journée, mais c'est ouvert à tous. C'est sympa aussi. Et puis, avec Bruno, on avait organisé l'année dernière aussi une Pater Cup, pour les footeux, les prêtres footeux, qui avaient été mis, enfin, qu'on avait mis en place à Villepinte. Et donc, ça a eu un succès, parce qu'il y a eu 110 prêtres qui sont venus jouer, dont 3 évêques. Et donc, parce qu'il y avait un tournoi de pétanque pour les évêques. Et on va refaire ça cette année, au même endroit. Mais j'espère qu'on aura 300 prêtres cette fois-ci. Et en fait, ça met en valeur beaucoup les prêtres Fidei Donum, qui sont hyper sportifs, les Asiatiques, les Africains. Et comme tu disais, voilà, on peut jouer avec un évêque à côté de soi ou un Saint-Martin sans savoir que c'est un Saint-Martin ou que c'est un évêque. Tout le monde est détendu et je crois qu'on a beaucoup besoin de détente aussi dans l'Église aujourd'hui. Et ce temps-là était très bien, donc on le refera le 17 juin.
Mais ça pose à la fin quand on s'est ravillé les uns avec les sultans, d'autres avec les Saint-Martin à côté des... On avait notre regard sur l'autre.
On a échangé.
C'est ça aussi le but, c'est-à-dire qu'on a pu jouer ensemble. Et puis finalement, sur le terrain de l'Église, on pourrait jouer ensemble avec nos différents.
Voilà, ça c'est pour les Paralympiques. Voilà. Oui, Alain.
Il y a une question technique, je n'ai pas tout à fait bien compris. Il y a des délégués diocésains qui existent et puis il y a des délégués qui sont polygames. Est-ce que c'est la
même chose?
C'est la même chose. Oui, c'est la même
chose. C'est-à-dire que.
En fait, il y a une présentation qui a été faite d'abord à la réunion des vicaires généraux, demandant à ce que chaque diocèse puisse avoir un délégué pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, notamment pour coordonner les différentes propositions, pour avoir... Et ça a été présenté à l'Assemblée des évêques. Et donc, effectivement, on est une trentaine...
Ça suppose une validation de l'évêque.
Oui, non, enfin, je dirais normalement, parce que moi, je me suis inscrit avant de demander à mon évêque.
Voilà.
Mais il y a, d'autres évêques qui ont fait officiellement des lettres de nomination. D'autres évêques qui ont dit, bah, toi, t'es aumônier de la FSF, donc tu vas faire le délégué. Enfin, voilà. Ouais. Ça a pris différentes formes. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, Philippe pourra en parler, puisque sur son diocèse, voilà, mais il y a des diocèses où c'est compliqué d'avoir, ben on le voit déjà au niveau de la pastorale du sport déjà, mais au niveau des délégués, et entre guillemets, actuellement, il y a quand même la moitié des diocèses qui vont recevoir des épreuves pour les Jeux Olympiques qui n'ont pas de délégués.
Donc, la question suivante, ouais. C'est est-ce que c'est systématiquement des prêtres?
Non.
Ou des diacres, ou des laïcs, ou des...
Prêtre, diacre, laïc, il y a tout.
Dans le 93, c'est une équipe dont il y a un prêtre, parce que leur thème d'année, c'est sport et foi. Et ils ont ouvert l'année là, le 8 octobre, le jour où on avait organisé un cross de Montmartre à Saint-Denis, de 10 km, et où dans chaque diocèse, on avait invité à faire une journée de lancement avec un sport local ou une activité locale. Et il y a eu quand même 600 personnes qui ont participé en déambulation ou en courant à cette épreuve, sachant qu'en même temps, dans Paris, il y avait le 20 km parisien, et nous, on était sur notre 10 km, et on a quand même 600 personnes. Et donc, on a participé donc, à la journée de lancement avec Mgr Delannoy dans la basilique Saint-Denis sur sport et foi, l'année sport et foi. Donc en fait, les évêques sont aujourd'hui bien motivés, surtout ceux de l'Île-de-France et Marseille et Tahiti. D'ailleurs, si on cherche des aumôniers pour aller à Tahiti, pour aller confesser les surfeurs.
Moi, je vois bien Alain sur une planche de surf.
J'aurais d'autres recherches à faire pour le désarmement nucléaire. Je comprends très bien.
Alors voilà, elle vous a parlé un petit peu du village olympique aussi.
Bon. L'accès à l'île.
Voilà, mais aussi à l'intérieur. Et la coordination des 5 aumôneries qui seront présentes aussi, qui sera faite par Isabelle Crudeau, qui est une ancienne tenniswoman. Je pensais à quoi aussi.
J'avais une question par rapport à ça hier, mais c'était après le départ d'Isabelle. Le lien avec la gestion du village olympique, est-ce que ça se fait par le biais de l'administration du CIO, en lien avec eux, en lien qu'avec Paris 24?
Alors ça passe au niveau du ministère de l'Intérieur, qui veut savoir tous les noms et surtout les origines de ceux qui vont avoir une passe. Je crois qu'elle en a dit un mot. L'archevêque de Paris a voulu qu'il y ait trois des événements qui se déroulent, un catholique, un œcuménique et un interreligieux. Alors l'interreligieux, on est en train de le négocier avec la préfecture de Paris, qui en a ras-le-bol de tout ce qui s'organise, d'autant plus que ça pourrait être sur le parvis de Notre-Dame. Le gros atout qu'on a, c'est que c'est Thomas Barr qui l'a demandé. Donc Thomas Barr, c'est quand même au niveau de Macron que ça se passe, c'est un chef d'État équivalent. Donc on a demandé aussi à M. Macron de venir, s'il voulait venir à cet événement, qui aura lieu donc le 11 août, s'il a lieu. Ça serait 6 prises de parole, 0 prière en commun.
Oui.
Parce qu'on voilà, on n'est pas là pour faire une soupe, tout le monde est à mode.
Comme assise, quoi.
Assise, exactement. Le problème, c'est que... Assise, c'était quelle année ?
86.
Voilà.
Le premier
assise. Et donc, il va y avoir un assise à Paris. Le 29 septembre, 3 journées, et on attend 9000 congressistes, ça c'est au niveau mondial, hein. Et c'est organisé par la communauté Saint-Égidio, et donc eux ils investissent beaucoup là-dessus. Et donc nous on ne voudrait pas être concurrentiel, donc on va faire un tout petit événement qui touchera 300 personnes, et qui pourrait avoir lieu, je veux dire encore une fois, c'est pas sûr, sur le parvis, avec une prise de parole de Thomas Barr, et puis ensuite de l'archevêque de Paris, et ensuite des 3-4 grandes religions qui sont présentes au village olympique, soit par les responsables des villages olympiques, soit par des, en train de voir ça, Aïm Corsia ou d'autres qui représentent plus une nation, hein, qui représentent plus une religion au niveau national.
Donc le sport est une religion, si Thomas Barr intervient.
Oui, tout à fait. Non mais ça nous
non mais c'est oui c'est
ouais et puis une prise de parole pour terminer de probablement de moi pour expliquer ce qu'on a vécu un peu au niveau du village olympique et voilà et on s'interroge après sur la possibilité qui ne dépend pas totalement de nous que ces 5 délégués aillent visiter Notre-Dame ou puissent aller dans un endroit où on a emmené récemment le 15 de France voilà. L'événement œcuménique, ce sera au stade Pierre de Couvert. Donc on est actuellement sur du futsal et de la louange en alternance avec tous nos frères protestants historiques et hystériques. Historiques et... cela ne sera pas publié. voilà. Donc, oui, on voulait confier ça à Thésée, mais on préfère le prendre en main directement. Avec Jean-Luc Sergent, ça vous dit quelque chose ? Jean-Luc Sergent, c'est un pasteur anglican qui est donc qui vit à Londres, qui est le coach de Olivier Giroud, c'est pour ça qu'il est un peu connu, et qui a intégré un peu notre organisation aujourd'hui de manière dans l'œcuménisme notamment, et qui cherche un petit peu comment entrer un peu avec nous en réseau, et enfin, il a le bras long sur le plan sportif, et puis en plus il est très, très évidemment très ouvert, sinon on l'aurait pas intégré, il nous aide beaucoup là actuellement sur la Coupe du Monde de rugby, donc je souhaiterais qu'il soit présent à Coubertin aussi. D'ailleurs, le colloque, quand il aura lieu à la Cato, il aura lieu dans le lieu qui s'appelle Pierre de Coubertin. À l'intérieur de la Cato, il y a un amphi qui va s'appeler, ou un lieu qui va s'appeler Pierre de Coubertin, parce qu'il a fait
ses études de droit.
De droit à la Cato.
En tant qu'étudiant lambda, il se cherchait beaucoup à
mais c'est un étudiant. Sur le plan religieux, il cherchait.
Ouais, sur le plan, voilà, est-ce qu'il est de manière militaire, avocat, juriste, ou alors s'intéresser au thème de l'éducation à travers le sport.
D'accord.
Mais effectivement, vous avez sur la rue d'Assas, le nom Pierre de Coubertin qui nomme un site.
Donc on va l'inaugurer à l'occasion de ce colloque.
Est-ce qu'il y a telle ou telle question ?
Oui. La préparation des JO a permis de tisser un certain nombre de relations avec les autorités, du monde sportif. On a eu à évoquer l'après. Donc le fait de la durabilité, Holy Games, des questions. Il y a eu un aspect qui m'a beaucoup choqué, que j'ai découvert ici, et justement je voudrais peut-être souligner. Est-ce que finalement l'Église pourra être force de proposition, d'intervention pour bousculer un certain nombre de choses après les JO, telle que cette énormité que les Jeux paralympiques ne puissent pas utiliser le logo des 5 anneaux. Ça me paraît tellement énorme, des choses comme ça. Est-ce que l'Église ne peut pas faire passer un message pour promouvoir...
Bon, ça, c'est...
C'est
qu'une... Oui, non, mais justement, le problème, c'est que c'est... que financier, donc ça ne bougera jamais. Ça, après, on peut amener à réfléchir. Moi, à mon avis, c'est entre guillemets les anneaux olympiques. Je vais dire que je vais pas dire que je m'en fous un petit peu, mais je dirais c'est plus à travailler comment le lien entre. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Béatrice Hesse, notamment sur lien olympique et paralympique. Elle a parlé de l'historique. Elle a vécu les transports dans les avions de. C'était pas sur Air France qui c'était les transports de marchandises, hein, parce qu'avec leur truc. Donc elle a connu vraiment le. Comme elle disait, la préhistoire. Elle disait, mais il y en a certains qui parlent de mettre les Olympiques avec le Paralympique. Elle dit, non, c'est pas possible et c'est pas bon. Mais elle a dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait pas autant de décalage entre les deux, mais qu'on commence par les Paralympiques. On commence par les Paralympiques, on laisse une semaine, parce qu'il y a des réaménagements à faire, et après, on a les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Paralympiques permettent, on rentre déjà dans le truc, et on commence à en parler, et après, on a les Jeux Olympiques. Alors que là, on a les Jeux Olympiques, c'est fermé, on va se coucher, et puis, en plus...
Ah oui, tiens, il reste les Paralympiques.
Voilà, puis on va faire un petit truc. Donc, et c'est, voilà, comment on va amener à changer. Alors, je dirais que là aussi, je dis en plaisantant, si on n'a pas eu les Jeux Olympiques en 2012 et en 2016, c'est pas, notamment le Paralympique. Parce que Londres, et puis après
Tokyo,
Rio, avaient, eux, entre guillemets, le Paralympique était au même niveau que l'Olympique. Et ils ont mis les moyens, alors que nous, le Paralympique, entre guillemets, à cette époque-là, on n'en avait rien à foutre. Je caricature, mais je ne suis pas loin de la réalité. Et je dirais que Londres 2012 a été vraiment... une grosse avancée, notamment dans la médiatisation du Paralympique. Tous les stades étaient pleins parce que vous achetez pas les billets, on fait venir tous les scolaires et les stades étaient pleins. Et quand on a les témoignages d'athlètes paralympiques, c'était vraiment phénoménal de dire c'est la première fois qu'on est dans un stade plein.
C'est comme le football féminin qui se remplit progressivement.
Voilà, où des athlètes disaient mais même je suis gêné dans mes performances parce que j'ai l'habitude de faire mes performances en silence. Et là, on a des spectateurs qui nous encouragent. Et donc, il y a cette évolution et je pense que nous, Église, on a à être dans cette dynamique. Alors, poser des questions, effectivement, mais je dirais qu'il y a des questions... entre guillemets, ça ne vaut même pas le coup d'être posé parce qu'on n'arrivera à rien sur ces sujets-là. Mais il y a beaucoup plus de choses où on peut agir et aider à aller dans le bon sens.
Alors, sur votre question, Alain, ou Gilles, moi, elle me pose... Enfin, je vais vous dire une énormité. Je ne savais pas, parce que c'est un peu moi qui ai poussé à la roue pour qu'il y ait un engagement visible de l'Église catholique au JO. Et je m'intéresse pas, je ne m'intéressais pas spécialement, quoique grand sportif avec Bruno Sautreau, pendant le temps du séminaire, à cette question du sport et de l'Église. J'ai découvert donc qu'il y avait une entité au Vatican. Ma question, c'est comment peut-on, après les JO, faire travailler ensemble la FSCF, Église et sport, et ce qui restera d'Oligan. Ça, l'intérêt. Et donc, voilà, les pistes que j'ai, sans y avoir trop pensé aujourd'hui.
Et l'enseignement catholique,
Uxelles, oui, tout à fait, oui. Les quelques pistes auxquelles j'ai pensé, sans les avoir tant, autant travaillé que ça. Si on arrive à créer une aumônerie à l'INSEP, et puisqu'on a ouvert une chapelle, même si la mairie actuellement nous fait un peu des problèmes, parce que elle n'est pas intégrée dans le paysage architectural de la Madeleine, même si on la déménage dans un autre lieu, on a ouvert une brèche de communication avec le monde du haut niveau. Et je pense que c'est nouveau par rapport notamment aux efforts que font les protestants pour être présents sur le coaching des sportifs de haut niveau. Et là, il faut continuer quelque chose. Donc, j'ai nommé actuellement un aumônier prêtre et une équipe que je suis en train de constituer. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous m'aidiez à la constituer pour suivre cette aumônerie. L'aumônier, c'est actuellement Xavier Ernst, qui est salésien de Don Bosco, curé de la paroisse de Saint-Jean Bosco à Paris, et lui-même sportif dans le vélo. Et avec lui, donc, il y a Isabelle Crudeau, Jérémy Rigaud, qui est un prêtre rugbyman, d'autres personnes qui sont prêts, comme Arnaud Boutelon, à intégrer, mais je n'étais pas missionné. Donc, si vous avez des noms à me donner, le but, c'est quoi? C'est de répondre. Il y a Jason Nyoka aussi qui est là-dedans. Ce serait de pouvoir avoir, de pouvoir déparisianiser, délocaliser ou déconcentrer l'aumônerie qui est visible. qui peut être visible à la Madeleine, par le numérique notamment, et permettre, donc aujourd'hui on a des sportifs anglais, des sportifs francophones, des sportifs hispanophones qui ont écrit, nous écrivent pour prier pour eux. Pour... On va célébrer une messe un samedi par mois avec un accueil de 2 heures avant la messe pour les sportifs à la Madeleine. Bon, ça peut devenir pérenne, mais je pense que la grosse question, c'est comment continuer à accompagner spirituellement les sportifs de haut niveau, et pas qu'à Paris. Parce qu'ils demandent aussi à être soutenus dans leurs compètes. Et donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'amener un prêtre dans les compètes mondiales qui se passent, mais peut-être qu'il faut l'organiser, peut-être qu'il faut le mettre en place au niveau de l'Église de France. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment, sur le plan numérique et sur le plan de la formation et de l'information, maintenir quelque chose après les JO. Est-ce que le logo Holy Games, qui en fait passe bien, est exportable dans d'autres pays ou peut servir des structures qui existent dans d'autres pays, qui sont moins laïcard que nos structures, pour permettre, pour faciliter cette organisation, qu'on n'ait pas tout à réinventer la poudre à chaque Jeux Olympiques d'hiver ou d'été. On a mis en place aujourd'hui des moyens, qui ne sont pas financiers, mais il faut les trouver quand même, mais qui sont surtout des moyens de mobilisation des jeunes. Il faudrait, à mon avis, pérenniser pour que, à San Francisco ou même au Qatar, où il y aura les prochains Jeux d'hiver avec des petits... Je rigole.
Il y a l'Italie en 2026,
JO d'hiver. C'est les JO d'hiver d'Italie.
2026.
Ah, là, il faut absolument capitaliser là-dessus aussi, parce que là, c'est porteur. JO d'hiver 2026. Wow, ils font ça...
Cortina et Milan.
Milan. Voilà, donc là, il faudrait pouvoir pérenniser, mais surtout transmettre. Et puis, cette instance que vous êtes, Église et Sport en France, je crois qu'il faudrait pouvoir aussi travailler ensemble au-delà des JO.
Oui, vous nous amenez des questions qui vont amener à la conclusion du congrès, mais qui est une conclusion ouverte. Merci, Monseigneur.